Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
Un drame terrible cette semaine. L'attaque de London en Ontario. Une attaque avec un véhicule qui frappe, qui décime une famille. Un père, une mère, les grands-parents qui sont là et un petit garçon. Le petit garçon, les grands-parents, la mère et le père décèdent. Le petit garçon survit à l'hôpital dans un état critique. Et là, toute la question se pose. C'est une famille musulmane. Donc, est-ce que c'est une attaque terroriste? On a un individu qui sort du véhicule avec une veste par balle. Déjà là, ça pose beaucoup de questions. Certains disent même qu'il riait. Donc, qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui cette personne-là? Un jeune de 20 ans. Est-ce que vraiment c'est une attaque terroriste? Pourquoi il a fait ça? T'sais, je veux dire, c'est très grave. Imaginez, vous êtes avec votre famille, on ne s'attend pas à ce qu'un véhicule nous frappe. C'est une arme, hein? On le sait quand c'est utilisé de la mauvaise manière. Et bon, des accusations sont portées. On parle ici de meurtre, hein, de meurtre premier degré, prémédité, délibéré, tentative pour le jeune homme. Et tout ça, comment, dans ce contexte-là, est-ce que c'est vraiment un attentat terroriste? On en parle avec Éric Yakov de Broise, qui est spécialiste en histoire de la criminalité et de la justice. Bonjour.
Bonjour, Maître Bernier. Ça va?
Ça va très bien, malgré le sujet, évidemment, qui est assez terne. Éric, oui. Rappelez-nous un peu, là, j'ai mis un peu la table, là, mais c'est qui cette famille-là? Comment ça s'est passé, là, ce drame-là?
Alors, ben, le dimanche soir, le 6 juin dernier, une famille musulmane est complètement décimée à London. C'est au total 4 victimes, comme vous l'avez mentionné, de la famille Afzal. Et seul un survivant parmi toute cette famille, c'est un jeune garçon de 9 ans. Et cette famille est décimée parce qu'un jeune homme du nom de Nathaniel Veltman, 20 ans, au volant d'une camionnette, décide donc de foncer sur cette famille et il ne s'arrête pas. Hein. C'est vraiment comme une attaque bélier. Mmh. C'est seulement 25 minutes après son acte que le meurtrier appelle de lui-même le 911 et il se rend à la police.
Donc, de lui-même, décide d'appeler le 911. OK.
C'est tout à fait.
Particulier. Ouais.
Un peu comme le même cas qu'il y avait eu avec l'attaque de la mosquée de Québec. C'est-à-dire qu'on avait Alexandre Bissonnette qui avait commis son acte et plusieurs minutes plus tard, 10, 20, non, une trentaine de minutes plus tard, il avait de lui-même appelé la police.
Après s'être sauvé, puis même il y a un enregistrement avec le 911, où est-ce qu'on voit que le répartiteur est très habile pour empêcher même Bissonnette de s'enlever la vie et de se rendre sans grabuge, oui, effectivement. Et est-ce que il y avait un lien entre cet individu-là et cette famille? Est-ce qu'on sait ça?
Alors, pas à ma connaissance, c'est vraiment une attaque gratuite. J'aime pas le terme, mais c'est vraiment une attaque, je dirais pas spontanée, puisque selon les policiers, enfin selon le chef de la police de London, il y aurait tout lieu de croire que c'est vraiment un acte islamophobe, puisque apparemment l'acte aurait été planifié, prémédité et motivé par la haine, comme dit le chef de la police, et qu'ils auraient été ciblés en raison de leur foi. Alors moi, personnellement, j'ai été voir une photo de cette famille. On a l'impression de voir une famille qu'on pourrait, de manière typique, voir au Pakistan ou au Bangladesh ou même en Inde. On n'a pas vraiment l'impression de voir des musulmans. Alors peut-être que lui, il les connaissait un peu plus. Peut-être qu'il avait, il tournait déjà dans le quartier depuis un petit moment pour repérer du monde. Mais semble-t-il, dès qu'il les a vus, il a foncé et commis son acte de manière gratuite.
Parce que dans cette ville de London, en Ontario, est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de communautés? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur ou on ne sait pas?
Alors,
ça?
Tout à fait. En fait, à London, on a l'une des plus fortes proportions de concitoyens musulmans au Canada. À London, si je me souviens bien, c'est une communauté d'à peu près 30 000 personnes.
Okay.
Ce qui, par rapport à la population, représente un pourcentage plus élevé qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le pays. Donc, peut-être que je ne peux que supposer que Monsieur Veltman, cela le dérangeait, mais moi, j'ai été voir la photo de cette famille et comme je vous dis, on aurait pu croire que c'était une famille en provenance d'Inde, Pakistan ou Bangladesh et on n'avait pas vraiment de perception que cette famille était plus musulmane qu'une autre.
Je comprends. Et avec l'information qu'on a en ce moment, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui tenait des propos islamophobes ou racistes sur les médias sociaux. Est-ce qu'on a de l'information là-dessus?
J'ai cherché, la police est quand même relativement discrète là-dessus. J'ai pas non plus trouvé d'informations concernant les journalistes. On peut communiquer aussi sur le sujet, si ce n'est que apparemment il y a tout lieu de croire que le motif était bien de viser des personnes ayant une foi musulmane. Maintenant, la question se pose, est-ce que l'acte peut être considéré comme terroriste ou pas?
Ben effectivement, là, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on risque d'avoir des accusations de terrorisme? Est-ce que c'est important? Même si c'est le cas, je pense que pour les communautés, c'est important que d'identifier ce que c'est là, parce qu'on sait qu'il y a des accusations de meurtre premier degré qui sont les plus graves au code criminel. Mais est-ce que c'est important qu'il y ait des accusations de terrorisme si c'est le cas?
Je crois que oui. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible. C'est que quand on parle de crimes haineux, cela touche en règle générale des minorités. Hein. Mmh. Ça peut toucher les Juifs, ça peut toucher les Noirs, les LGBT, ça peut toucher toute forme de minorité. Pas seulement des minorités, mais les crimes haineux, en règle générale, tournent autour des minorités.
Ouais.
Et par contre, les crimes haineux violents, comme on vient de subir, enfin, comme on vient de voir à London, il y a une problématique qui se pose souvent dans la société d'accueil, c'est qu'on a du mal à le qualifier de terroriste parce qu'on le qualifie de crime haineux. Or, pourtant, l'un et l'autre ne sont pas forcément en inadéquation. Et même pourrait se renforcer l'un l'autre. Mmh. Je m'explique. En l'occurrence, un acte terroriste, selon le code criminel canadien, ça doit y avoir deux aspects bien précis. Avoir des motifs raisonnables de croire que l'acte a été commis exclusivement ou non dans un but ou un objectif politique, religieux et ou idéologique.
Okay.
Et le deuxième point, c'est dans l'intention d'intimider toute une partie de la population quant à sa sécurité. Eh bien, en l'occurrence, si des accusations de terrorisme étaient portées de manière franche pour dénoncer aussi certains crimes haineux, eh bien, cela pourrait prendre en considération beaucoup mieux le sentiment d'insécurité que peuvent vivre des minorités.
Mmh. C'est une forme de... Parce qu'on sait dans les peines que c'est des meurtres premier degré, c'est la prison à vie. Là. On en parlera, il y a le cumul même des admissibilités à la libération conditionnelle. Mais c'est peut-être important de qualifier le crime pour que ça soit reconnu. C'est ce que vous dites, là.
Ben, c'est surtout pour les minorités, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une forme de division qui s'opère dans la société, c'est que dès que c'est un crime terroriste, le crime terroriste est facilement reconnu dès que ça touche la majorité de la population, mais dès que ça concerne des minorités, alors là, il y a comme beaucoup plus de retenue à qualifier le crime haineux comme terroriste. Mmh. Alors que, comme je l'ai dit, c'est pas forcément en inadéquation. Au contraire, même ça pourrait renforcer la prise en considération du sentiment d'insécurité de certaines minorités. Et okay. Ça permettrait aussi de peut-être mieux lutter contre les crimes haineux dans le futur.
C'est ça. Si je comprends bien, le crime haineux vise, c'est ça, cette minorité-là. Mais l'acte terroriste ne vise pas nécessairement des minorités, c'est ça?
Exactement. Mmh. L'acte terroriste ne vise pas forcément des minorités, mais on le reconnaît assez facilement. Par exemple, quand en France, par exemple, vous avez un acte terroriste, ben, on sent que on n'a pas du mal à le qualifier parce que ça a touché la culture majoritaire, la culture française.
Tout le monde et la terreur, on terrorise une société.
Exactement. Ouais. Mais imaginons, et je ne l'espère pas, mais que demain, quelqu'un commettrait un acte contre une mosquée, là, on a du mal à le qualifier d'acte terroriste. Alors que pourtant, et il y a tous les éléments de le considérer comme tel. Voyez-vous. Et là, dans le cas présent, selon les éléments donnés par la police, il y aurait motif de croire que c'est un acte terroriste. Et le Premier ministre, lui, a franchi le pas. Il le considère vraiment comme un acte terroriste.
Mais le criminel peut être aussi un acte terroriste, c'est ça, je comprends. Là.
Tout à fait, oui.
OK, je comprends. Et tout ce débat-là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que, c'est ça, ça risque, c'est en Ontario, ça risque de relancer le débat sur à savoir si c'est une personne est admissible à la libération de conditionnelle, parce que c'est un homme qui est jeune, là, c'est 20 ans, à combien de temps, là, comme dans l'affaire Bissonnette qui est devant la Cour suprême, là?
Alors, ben, c'est sûr que ça ravive des blessures. Ça rappelle l'affaire Bissonnette au Québec. Ça ravive, le Premier ministre a fait quelques amalgames avec la loi 21 pour la laïcité au Québec. Et surtout, ça relance encore le débat où ça va l'alimenter sur les peines constitutives, et la libération conditionnelle dont on a parlé la semaine dernière, considérant que, à l'échelle du pays, ben, au jour d'aujourd'hui, un juge, il ne sait pas exactement quelle peine il peut prononcer face à un crime multiple comme celui-ci.
Ben oui. Comment quantifier l'horreur? C'est difficile, évidemment.
Très difficile.
Merci beaucoup, Éric Yakov-Deboise. On s'en reparlera. Et évidemment, toutes nos sympathies à la famille et bon courage à ce jeune homme-là qui aura besoin de beaucoup d'amour pour passer à travers ce drame. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée, Maître Bernier. Au revoir.
Au revoir.